t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasaï Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver à nouveau pour ces 57 minutes interactives dans Parole aux auditeurs sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Le 24 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies. Pour la société civile congolaise, c'est l'occasion de réfléchir sur la façon dont les Nations Unies peuvent résoudre les problèmes locaux touchant les objectifs du développement durable en Afrique en général et pourquoi pas en RDC en particulier. Qu'en pensez-vous par rapport à cette thématique? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre en composant directement le 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci de l'intérêt que vous accordez aux différents sujets que nous vous soumettons au débat au cours de cet échange citoyen. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Alain Goy, Pierre Lameji et Martin Sebujangui concourent à la production de ce magazine coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Idesbald Chindamwila qui est avec nous. Bonjour Idesbald.
Bonjour JR, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Alors nous rappelons que vous êtes le coordonnateur en charge du pilier croissance inclusive et développement durable au PNUD. Merci d'accepter notre invitation, mais à cette occasion, qu'est-ce qu'on peut retenir de la contribution des Nations Unies au développement durable de l'Afrique et particulièrement de la RDC? Qu'est-ce qu'on peut retenir à ces jours?
Oui, bonjour encore JR et encore une fois bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment sur la radio Capi. Nous sommes errés ce jour 24 octobre qui est la journée des Nations Unies. Et je crois que ce matin, nous avons suivi toujours sur les antennes de la radio Capi la présentation un tout petit peu de la mission des Nations Unies par le directeur pays du PNUD qui a fait une très belle intervention ce matin. Peut-être qu'on peut juste parler du fardeau, du poids que nous avons en ce qui concerne le développement, surtout pour ce qui nous concerne au niveau de l'Afrique et en particulier pour la République démocratique du Congo. Je crois que les Nations Unies sont les partenaires privilégiés aujourd'hui du gouvernement qui l'a témoigné à plusieurs reprises. Nous avons été dans toutes les revues, le gouvernement ne cesse de le dire que les Nations Unies sont les partenaires privilégiés en termes d'appui stratégique en matière de développement. Aujourd'hui, le cadre stratégique de développement, bien sûr, c'est celui que nous appelons tous Agenda 2030. Après la belle aventure que nous avons eue ensemble avec les différents pays pour les objectifs du millénaire pour le développement, nous avons embarqué ensemble avec plusieurs pays dans l'Agenda 2030 qui porte sur 17 objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui, c'est la feuille de route dans laquelle plusieurs pays ont souscrit et sur lequel nous sommes en train de travailler en aidant les pays effectivement à aligner leurs ambitions de développement dans une perspective plus durable. Les Nations Unies sont la cheville ouvrière au niveau du gouvernement, en appui au gouvernement pour la mise en œuvre de cet agenda 2030. Et aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, nous savons que beaucoup de progrès ont été réalisés. Les objectifs de développement durable, les ODD, ont été priorisés. Les cibles au niveau national ont été fixées, ça veut dire les objectifs locaux, les objectifs nationaux ont été fixés. Et nous sommes en train de faire pareil exercice au niveau des provinces. Dans la plupart des provinces aujourd'hui, l'exercice est en cours également, en train de définir les ambitions locales de développement par rapport aux objectifs de développement durable. Donc la mission des Nations Unies, c'est justement pour accompagner les pays à se définir effectivement comme ils se doivent.
Alors quand vous parlez des Nations Unies comme partenaires privilégiés, et nous le savons que les Nations Unies sont aux côtés de la RDC depuis des lustres, à ce jour, les défis qui restent à relever autour des ambitions de développement de la RDC se situent à quel niveau?
Oui, écoutez, la RDC a beaucoup d'ambition. Je crois que vous avez suivi tous la présentation du plan national stratégique de développement qui est toujours en cours d'élaboration et probablement qui pourra être validé très très prochainement. Les ambitions de la RDC sont légitimes. C'est un pays qui serait défini, le pays à revenu intermédiaire d'ici à l'horizon 2025-2030, pays développé à l'horizon 2040-2050. Donc il y a plusieurs ambitions. Nous savons également que en termes particulièrement de développement durable, les pays se projettent également comme une puissance énergétique, une puissance environnementale, une puissance agricole. Et nous savons également que toutes ces ambitions, il faut justement aider les pays à canaliser, avoir des outils qui puissent permettre de piloter ces ambitions. Donc c'est ça le travail que nous essayons de faire avec l'appui des autres agences, pas seulement le PRISM, mais également toutes les agences, chacune dans son mandat. On essaie d'accompagner parce que c'est lié, effectivement, quand on parle de développement durable, c'est la mobilisation de tous les acteurs, de tous les partenaires. Vous avez à la fois...
Oui. Alors, quand vous parlez de Nations Unies comme partenaire privilégié, vous avez dit il n'y a pas que le PNUD. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur toutes ces agences qui sont concernées dans ces travaux de développement durable?
Non, les agences, toutes les agences, je peux dire, toutes les agences des Nations Unies sont concernées. Vous savez, il y en a plusieurs, les agences des Nations Unies. Je donne un exemple. Le PNUD est aujourd'hui ce qu'on appelle, dans le mandat qu'on lui a donné au niveau des Nations Unies, c'est un peu comme celui des coordinations au niveau de la mise en œuvre des objectifs du
développement durable.
C'est dans le rôle de la coordination. Mais nous avons des agences qui interviennent directement sur certains objectifs spécifiques. Nous avons l'UN Habitat, par exemple, qui intervient si l'objectif lié, par exemple, à ce que nous appelons les villes durables. Toutes les questions liées aux villes durables, ça c'est un objectif spécifique sur lequel, effectivement, l'UN Habitat se positionne. Nous avons la FAO qui se positionne également sur toutes les questions liées à la pauvreté, à l'alimentation. Nous avons toutes les questions liées à la santé, et avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons les autres organisations, l'ONID, par exemple, sur les questions industrielles qui se positionnent, sur l'ODD lié à l'énergie, sur les questions de l'énergie. Nous avons les fonds des populations, fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui se positionne sur toutes les questions à la fois des développements, des populations, des développements humains de façon substantif également. Nous avons donc les différentes agences, l'UNEP, qu'on appelle aujourd'hui aussi le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui se positionne sur plusieurs également ODD, bien sûr en étroite collaboration avec le PNUD. Nous avons les autres agences qui sont, par exemple, avec nous ici, BIT, sur toutes les questions du travail décent, et ainsi de suite. Donc, l'UNESCO qui se positionne sur les questions à la fois du patrimoine culturel, mais aussi tout ce qui concerne l'éducation, et ainsi de suite. Donc, vous avez, avec les ODD, les 17 ODD, chaque agence a quelque chose à jouer, un rôle important à jouer. Parce que nous avons l'ODD 17 lui-même qui est le partenariat multiforme et multisectoriel pour accompagner les différents pays à mettre en œuvre les ODD. Merci.
Voilà, nous vous gardons en ligne, Idesbal Chinamwina, le temps d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui vont participer à cette émission avec une seule question. Que pensez-vous du travail de coordination réalisé par les agences des Nations Unies, chacune en ce qui les concerne, comme vous venez de le dire, les PNUD au niveau de la coordination, la FAO pour la question de la pauvreté et l'alimentation, l'OMS notamment sur la santé, pour ne citer que cela, afin de toucher réellement aux problèmes qui touchent, aux problèmes du développement durable en RDC. Et Platini, vous êtes en Bandaka, les autres vont vous rejoindre, 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Platini, vous êtes à Mbandaka. Bonjour Platini.
Bonjour J.R. Lungembo, bonjour l'invité, bonjour à tout le monde.
Le 24 octobre de chaque année, comme je l'ai dit, le monde célèbre la journée des Nations Unies. Et pour la société civile congolaise, c'est l'occasion de réfléchir sur la façon dont les Nations Unies peuvent résoudre les problèmes locaux touchant les objectifs du développement durable à RDC. Après avoir écouté notre invité qui a parlé de la question des Nations Unies comme partenaire privilégié, est-ce que vous ressentez ça, là où vous êtes par exemple en Mbandaka, qu'aujourd'hui les Nations Unies constituent un partenaire privilégié de la RDC?
Merci beaucoup, J.L. Ngembo, pour m'avoir accordé la parole. Moi, je suis très content parce que aujourd'hui, et y compris moi, ensemble avec les amis, ensemble avec les auditeurs, nous sommes en train de célébrer les Nations Unies dans les efforts qui sont à la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans nos territoires nationaux. J.L. Ngembo, vous avez déjà dit ici, je suis à Mbandaka, nous connaissons. Les efforts de la MONUSCO qui se font sur le terrain, entre autres, il y a les appuis dans le système des Nations Unies, comme je dis tantôt ici, à Zibes Bandaka, il y a PAN qui appuie au niveau du secteur de l'agriculture, il y a aussi l'UNICEF qui appuie au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il y a passé par là. Alors nous, les peuples congolais, nous les habitants de la ville de Mbandaka, province de Côte-d'Ivoire, nous sommes obligés à accompagner la Nations Unies à aller toujours de l'avant. Parce que ici, quand je parle ici, au nom de la population de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, pour soutenir et accompagner la MONUSCO à aller toujours de l'avant. Parce que souvent, comme l'invité lui-même a dit, que MONUSCO, parce que moi, personnellement, je me pose la question, que est-ce qu'un jour la MONUSCO peut partir? Et si la MONUSCO partait, nous, en République du Congo, qu'est-ce qu'on a comme les partenaires?
Oui, Platini, vous avez suivi, vous savez, quand on parle de cette journée, on voit, en tout cas, un partenariat multiforme ou encore pluriel, si je peux m'exprimer ainsi, oui. Parce que notre invité a parlé des PNUD, qui fait la coordination, il y a la FAO, l'OMS et le PAM, que vous venez d'ailleurs de citer, et tant d'autres agences qui travaillent. En tout cas, chacun dans son secteur, qu'il s'agisse du secteur de l'agriculture, comme vous l'avez dit, vous avez ressenti quand même des effets au niveau de Mbandaka, à l'est, notamment là où on parle des zones, des ONG, et même la présence très forte des agences des Nations Unies. Donc, pour vous, vous estimez qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau des agences?
J.L. Ngembo, parce que j'ai quand même la parole, vous avez bien dit, ici chez nous à Mbandaka, à l'Équateur, nous avons connu le cas de Ebola ici à Mbandaka, mais on a suivi l'appui de la MONUSCO, l'appui des Nations Unies, entre autres des matériels, les hélicoptères, des Mbandaka et Tipo, des matériels à tout moment. C'est ça que nous appuyons la MONUSCO, nous appuyons les Nations Unies pour les infos à bâtir. Entre autres, vous avez estimé, ici dans la ville de Mbandaka, il y a des systèmes des Nations Unies, je l'ai dit tantôt, il y a PAM qui fait la production des agricoles, il y a PNUD, il y a aussi UNICEF qui appuie nos enfants d'aller massivement au niveau de l'école. Donc c'est ça aussi, les partenaires là que nous, le peuple congolais, les habitants de la ville de Mbandaka, nous sommes obligés à appuyer, pas dans les mal, mais toujours dans les bons.
Dans les bons, merci beaucoup.
Pas toujours de l'avant, pour que le Congo ait des secteurs climatiques, soit aussi quand même amélioré. Et j'ai dit, je vous remercie.
Voilà, alors quand vous dites qu'il y a effectivement un impact de ce partenariat, vous pensez qu'il reste encore des défis dans ces ambitions du développement de la RDC? Quels sont les défis aujourd'hui?
Je suis hier, parce que je suis très content et je suis d'accord.
Est-ce que vous pensez qu'il reste encore des choses à faire, à améliorer dans ces partenariats?
Oui.
Des agences des Nations Unies.
Il y a des choses à améliorer, J.L. Ngembo. Parce que moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a cas d'Ebola au niveau du Nord Kivu, Beni, tout ça. Toujours la MONUSCO. Et la MONUSCO appuie le gouvernement congolais sur tout le plan, sur le plan éducationnel, sur le plan de santé, sur le plan de l'agriculture, c'est tout le plan.
Merci beaucoup, Platini. Alors, on va prendre Jérémy qui est à Lubumbashi. Merci beaucoup, Platini. Alors, on va voir avec Jérémy. Jérémy, vous êtes avec nous. Bonjour. Jérémy, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour, M. Gilles. Bonjour à des milliers de la radio Capi.
Alors, quand nous parlons de ces partenariats...
Je voudrais saluer, on peut se les mettre avec face, avec brio, mais cependant, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je pense que ce travail amorcé par les organisations internationales devrait être en connivence, bien sûr, avec ce qui se prédit sur place. J'ai toujours remarqué que cette politique qui est bien définie, mais cependant, il n'y a pas un mécanisme d'accompagnement qui se passe sur le terrain. Je veux dire que le développement, bien sûr, oui, il est matérialisé, mais cependant, il y a certains points, zones d'ombre qui enfreignent, qui essaient un peu d'enfreindre l'évolution de ce développement. Et prenons l'exemple du secteur de la santé. Vous allez voir qu'on peut acheminer des produits dans un centre quelconque, mais cependant, la gestion n'est pas adéquate, pas gérée comme il se doit. Cependant, ceux qui sont censés accompagner cette politique ne semblent pas la matérialiser. Cependant, vous allez voir, on amène ce qu'il faut.
Oui, quand vous parlez de mécanisme d'accompagnement, oui,
bien géré et pour accompagner cela jusque au destinataire final.
Oui, Jérémy. Oui, Jérémy.
Par exemple, dans le domaine de l'alimentation, il y a des coins, il y a même des coins plus reculés où la population croupit dans la misère la plus totale. Mais cependant, il y a l'insensibilité quant au suivi. Le développement est mis en place, bien sûr, mais ceux-là qui sont censés accompagner cette politique ne prennent pas la matérialité. C'est ainsi que je voudrais aussi demander à l'invité s'il peut un peu, bien sûr, nous donner un peu les objectifs, d'abord généraux et en plus spécifiques quant au développement, bien sûr, obtenu en cycle.
Merci beaucoup. Alors, Jérémy, quand vous avez parlé de mécanisme d'accompagnement, vous faites allusion à quoi concrètement? Parce que notre invité a dit que il y a cet appui stratégique du développement. Mais quand vous évoquez les mécanismes d'accompagnement, à quoi faites-vous allusion? Voilà, je crois que...
Non, je voudrais dire, parce qu'il y a un gouvernement qui est mis en place.
Oui.
Et j'ai vu autrefois, on voudrait aider le Congo, mais il semble que la politique n'est pas bien définie au niveau du gouvernement. C'est comme si les Congolais pensent déjà arriver et ils peuvent tout faire pour qu'il y ait beaucoup de choses à refaire.
Voilà, merci beaucoup. Alors, notez qu'il y a quand même un plan national de développement social de la RDC qui est en phase d'ailleurs de finalisation. Je crois que ça pourrait aider de manière générale à atteindre quand même ces objectifs de développement durable. Les 17, comme vous l'avez dit, et vous souhaitez d'ailleurs vous faire une idée très claire sur ces objectifs généraux. Merci beaucoup. Alors, Joséphine, Madame Joséphine, vous êtes à Boston. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi je voulais parler de deux questions. La première c'est les Nations Unies, depuis qu'ils sont au Congo, combien de pourcents des résolutions aux problèmes congolais qu'ils ont trouvés? Parlant de pourcentage. Et ceci, c'est, je crois que je peux dire que depuis 1994, qui est une autre crise par rapport à la crise de 1959, combien de pourcents de solutions aux crises congolaises? Et puis, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a, comme on dit en anglais, time frame. Donc, il y a le temps accordé à la crise pour terminer la crise quand ils vont dans un pays. Mais sinon, je viens du Congo, j'ai parcouru. Je ne peux pas dire les endroits là où je suis parti. Mais j'ai constaté que les Nations Unies, représentées par la MONUSCO, c'est comme si c'était une administration parallèle à l'administration de l'État. Mais comment ils s'organisent pour faire ça? Merci beaucoup.
Voilà. Alors, Madame Joséphine, vous avez parlé des Nations Unies en termes de pourcentage sur les résolutions. C'est ça, vous voulez vous faire une idée sur cette question. Et lorsque vous évoquez de 1994, je crois qu'il y a certaines agences qui sont à RDC, même bien avant 1994. C'est vrai que la crise que vous évoquez date de cette période-là. Mais il y a l'existence, le fonctionnement, l'opérationnalité de certaines agences qui datent de très longtemps, même bien avant, et qui nous ont même accompagnés depuis les objectifs du millénaire pour le développement avant de passer aujourd'hui aux ODD.
Oh oui, c'est pour ça que je suis rentrée même en 1959, parce que d'après l'histoire, ce que je connais, les Nations Unies sont venues au Congo depuis même peut-être bien avant 59. Moi, je vais voir les résolutions, c'est à combien de pourcents? Et le time frame, quand est-ce qu'ils vont dire qu'on a terminé, nous voulons maintenant partir du Congo, on laisse le Congolais tranquille. Parce que j'étais dans un coin au Congo, un coin là où on fait les minerais. Les minerais sont en train de sortir, aucun pays au monde, où on sort les minerais comme ça pour aller faire traiter ailleurs. Les Nations Unies pouvaient nous aider à faire ça. Mais je voulais savoir seulement le pourcentage de résolution.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Joséphine. Alors, on revient à vous, notre invité, Idesbald Chinamwila. Vous êtes avec nous?
Je suis là.
Alors, vous avez suivi les compatriotes, et si nous retenons une seule chose, c'est cet impact de partenariat privilégié entre les Nations Unies et la RDC particulièrement. C'est vrai, les avis sont partagés. Les uns estiment qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont consentis et qui ont donné quand même un très bon résultat. Mais d'autres, par contre, pensent le contraire. Et au nombre de ceux-là qui pensent le contraire, il y a même un auditeur qui a évoqué aujourd'hui les déficits de mécanismes d'accompagnement de cet appui stratégique du développement assuré par les Nations Unies. Est-ce que vous estimez que cela est lié au manque d'un plan national de développement stratégique pour la RDC?
Oui, bonjour encore, JR. Merci encore à tous les auditeurs et auditrices qui ont posé des questions. Donc, j'ai noté Platine, à partir de Mbandaka, Platine, je pense.
Oui.
Jérémy Okatanga. Et puis, j'ai compris que Joséphine intervenait à partir
de Boston, aux États-Unis.
Parfait. Alors, d'abord, j'apprécie ce que Platini disait tout à l'heure. Il m'a complété très correctement. Et je le remercie pour les compléments. Parce que là, quand j'ai cité, c'était un peu sans liste complète. Il a parlé des interventions de l'UNICEF qui sont importantes. Il a parlé des interventions du PAM. Il a parlé également des autres interventions. Et donc, il a mentionné quelque chose de très important pour laquelle je pense que peut-être Joséphine n'a pas suivi l'intervention de Platine quand il a parlé d'Ebola, parce qu'elle demande le pourcentage des résolutions aux problèmes. Je pense que chaque fois qu'Ebola a surgi dans ces pays, il y a des interventions musclées, en tout cas musclées, toutes les agences des ligues, toutes les agences alors, sous l'élite bien sûr de l'OMS, toutes les agences, que ce soit l'UNICEF, que ce soit le PNUD, que ce soit les PAM qui mobilisent même tous les avions, toute l'assistance humanitaire en termes d'avions pour justement aller endiguer cette épidémie-là. Et je crois que la RDC a développé des capacités, des ripostes et des maîtrises pour l'Ebola que nous ne pouvons pas effectivement comparer avec d'autres pays. Donc ça, c'est déjà un apport très important que Platini a mentionné tout à l'heure. Jérémy a mentionné sur les questions des mécanismes, a fait ressortir un problème sur les mécanismes d'accompagnement. Quels mécanismes d'accompagnement sont mis en place? Et je pense que ça, c'est un élément très important et qui va m'amener aussi à répondre à la question de Madame Joséphine de Boston. Parce que là, il faut comprendre d'abord que les rôles que nous les Nations Unies, notre rôle, c'est en même temps, c'est un rôle d'assistance technique. Il faut qu'on comprenne bien ces rôles-là d'assistance technique. Alors, il faut me demander qu'est-ce que signifie une assistance technique. Une assistance technique, c'est aider justement une situation qui était difficile à se relever, soutenir les leaderships nationales à pouvoir prendre les choses en main et pouvoir diriger comme il se doit. Et donc, il y a des aspects stratégiques sur lesquels nous nous positionnons directement. Nous avons parlé tout à l'heure du plan stratégique de développement, aider les pays à se positionner sur les enjeux mondiaux, sur les questions essentielles du développement. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les rôles des Nations Unies, nous avons la sauvegarde de la sécurité, nous avons la sauvegarde de la paix au niveau mondial, nous avons le mandat de promouvoir la liberté des peuples. Nous avons le mandat de promouvoir les droits de l'homme et le mandat de promouvoir les droits au développement. Je vais peut-être insister sur la liberté du peuple et les droits de l'homme et les droits au développement. Ces trois aspects peut-être pour faire comprendre un peu aussi le travail délicat qui n'est pas effectif, qui est complémentaire aussi entre les différentes agences. Mm-hmm. Si je parle des droits de l'homme, nous sommes en train de voir les droits de l'expression. Et je crois qu'on a beaucoup travaillé en aidant aussi en aidant les pays à engager plusieurs réformes qui sont aujourd'hui passées au niveau des droits de l'homme et particulièrement en ce qui concerne la femme. Et je pense qu'avec sous l'égide de l'ONU Femmes, que je n'ai pas cité tout à l'heure au début, qui joue un rôle très important avec l'engagement des femmes, qui constituent aujourd'hui autant, presque un peu plus de la moitié d'ailleurs de la population congolaise, autour de 51%, c'est constitué des femmes qui ont un niveau, qui ne participent pas à l'action du développement, alors qu'elles ont, et beaucoup de femmes sont à l'université, et les femmes sont marginalisées dans la société, que ce soit dans plusieurs autres domaines. Donc, il y a un rôle important qu'on a joué pour essayer de les repositionner, pour essayer aussi de les aider à se prendre en charge, à se relever, et aussi à ramener un peu ce que nous appelons aujourd'hui la parité, qui est en train d'être, ne fût-ce que sur le plan d'abord des textes réglementaires, sur le plan réglementaire, je crois qu'on a fait, les pays ont fait beaucoup de progrès là-dessus, mais il faut bien sûr aller continuer à faire les plaidoyers pour que ça soit maintenant
appliqué.
Ce principe-là soit appliqué. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais au moins on a déjà des progrès en termes législatifs, en termes de lois. Et nous avons ça. Participation aux élections, sensibilisation, ainsi de suite. Donc il y a des efforts qui sont faits et nous sommes conscients qu'il y a encore des obstacles, mais il faut poursuivre. Et tous les travaux, c'est pour ça qu'il y a les fameux ODD 5, égalité des sexes, pour lesquels effectivement les actions sont promouvoir effectivement une participation plus accrue des femmes au développement. Parce qu'on a démontré, il y a plusieurs études qui ont démontré que si les femmes sont impliquées autant que les hommes, sont valorisées, le potentiel des femmes qui n'est pas exploité est valorisé, que ce soit en termes de travail dans tous les domaines, les femmes peuvent contribuer autant que les hommes, dans tous les domaines de développement, dans tous les domaines socio-économiques de la nation. Les femmes ont les mêmes capacités que les hommes. Mais malheureusement, ce n'est pas valorisé. Donc, il faut effectivement aller vers cette valorisation-là. Ça va aider effectivement les pays à sortir probablement de sa situation aujourd'hui de pauvreté. Les droits au développement, si je dois y revenir, c'est là que nous parlons. Le développement, c'est d'abord une vision. Et une vision doit être définie et doit être portée par la suite. J'ai entendu madame parler des frameworks, c'est-à-dire un cadre de travail, un cadre de résultats global. Je suis d'accord, c'est justement ça la vision. C'est la vision qui porte ces frameworks, ces cadres globaux de travail. Il faut que ça soit porté par une vision. Et construire une vision, ensuite donner au pays la possibilité de matérialiser cette vision. Et là, je pense que nous, le CNUD, nous sommes forts dans ce domaine. C'est vraiment un des rôles clés que nous jouons dans l'appui, effectivement, au pays pour se redéfinir, pour se positionner et pour définir sa vision et l'aider, effectivement, à voir où est-ce qu'il peut mobiliser des ressources pour la
mise en œuvre. Oui, Idesbald, je crois que vous l'avez si bien dit. Mais quand on parle avec un commun de mortels, ou notamment le Congolais moyen, au fait, pour qu'ils ressentent les résultats, ils pensent directement tout de suite à la croissance inclusive qui pose actuellement problème. Et c'est là où maintenant ça remet en cause, en tout cas pour plus d'un ignorant, tous les travaux faits, consentis, d'ailleurs les efforts consentis par les agences des Nations Unies.
Parfait, ça c'est très bien. C'est un élément très important que vous venez de mentionner sur la croissance inclusive. Et effectivement, c'est encore un autre aspect où nous avons constaté avec les études qui ont été faites pour montrer effectivement que les pays, vous vous souvenez, il y a 3 ans, 4 ans, les pays ont connu des taux de croissance très importants. On est même arrivé à 7, 8%. Et vous savez très bien qu'on commençait même à rêver à passer à une croissance à des chiffres. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, on envisageait même de passer à une croissance économique à des chiffres, c'est-à-dire à partir des 10%, 11%. Évidemment. Mais tout ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas une corrélation directe, entre cette croissance et la réduction de la pauvreté. Donc il y avait une croissance significative, mais quand on regarde les taux de réduction de la pauvreté, il n'y avait pas un peu ce qu'on dit un matching, il n'y avait pas...
Le panier des ménagères, de la ménagère, donc posait toujours problème, donc un terme clair pour aider les uns et les autres.
Parfait, parfait. Alors donc l'idée c'est de dire, il faut maintenant voir comment booster, comment faire de cette croissance inclusive pour qu'elle puisse profiter effectivement à toutes les couches. Et donc il faut voir quels sont les domaines effectivement dans lesquels effectivement on peut faire la différence, où la majorité, la main d'œuvre congolaise se situe en majorité. Et donc on a fait des études qui ont montré effectivement que les domaines comme l'agriculture, qui constitue aujourd'hui un secteur très important, à grande valeur ajoutée, mais aussi à grande potentialité en termes de création d'emplois, et des créations dans ce que nous appelons à travers les chaînes de valeur qui peuvent être montées. Et donc, c'est un domaine sur lequel, effectivement, on est en train de monter, où le gouvernement a été sensibilisé et conscient de ces éléments, et nous sommes en train d'appuyer, effectivement, la mise en place des programmes et des politiques dans ces domaines pour faire de l'agriculture, comme le gouvernement
priorité.
Également aux accords de Maputo, qui disent qu'il faut, effectivement, augmenter les budgets
de 10%
du secteur agricole jusqu'à autour de 12 à 15% pour permettre effectivement d'engager la machine en termes de développement des chaînes de valeur qui peuvent à ce moment-là impliquer, impacter sur les communs, les paniers des ménagers, comme vous l'avez mentionné. Et donc ça, c'est encore un grand chantier sur lequel on doit effectivement appuyer le gouvernement dans cette ambition qui est repris aujourd'hui. Si vous regardez bien ce chantier-là, est repris dans les PNSD qui sera présenté bientôt, le plan national stratégique de développement. On parle effectivement de la croissance inclusive et on met l'accent sur les domaines qui vont permettre d'arriver à cette croissance inclusive, notamment l'agriculture. Ça c'est mis en évidence déjà dans la vision du gouvernement. Et donc nous sommes déjà en train de travailler pour voir comment effectivement on pourra accompagner.
Voilà, on va prendre une autre série des auditeurs, monsieur Desbal, si vous le permettez, nous vous gardons toujours en ligne. Il est temps de rappeler d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent également participer à cette émission qui tourne autour de la célébration de la journée des Nations Unies. Comme on le sait, les Nations Unies, ce sont des partenaires privilégiés, et quand on parle des Nations Unies, c'est toutes des agences qui travaillent pour le développement durable. Alors, nous avons Ghislain qui est à Congolo et Félicien à Kinshasa. Ghislain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi à travers le monde. Je suis à Congolo, dans le territoire de Congolo, dans la province du Tanganyika. Ma préoccupation est de poser la question, la différence qui existe entre les objectifs de développement durable et les objectifs du millénaire pour le développement. C'est ça ma préoccupation. Je suis agent de l'environnement et développement durable de Congo.
Merci beaucoup, Ghislain. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, cher. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Est-ce que vous pensez, comme les autres, qu'il y a effectivement un impact de ces partenariats privilégiés entre les Nations Unies et notamment la RDC, qui s'est traduit, en tout cas pour les uns, par rapport aux efforts ressentis, et d'autres qui disent non, parce que bon, finalement, il y a la croissance inclusive qui pose encore problème.
Mais vous savez que on ne peut pas aujourd'hui dénombrer les actions que l'ONU a fait ou fait à travers ses agences en République démocratique du Congo, qui travaillent très considérable, mais il aurait plus d'importance si nous étions dans un pays en paix et qu'on pouvait sentir les effets de tout ce que l'ONU fait avec nous. Parce que, comme vous le savez, comme l'a dit d'ailleurs l'invité, parmi les objectifs de l'ONU, vous avez la paix, la sécurité, le développement et tout ça. Mais comment on peut arriver au développement dans des pays en guerre, dans des pays qui ont des problèmes de gouvernement, des problèmes de bonne gouvernance? Et moi, je pense que l'ONU a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier objectif de cette institution a été la paix à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'Occident est vraiment en paix et l'ONU laisse faire les Occidentaux à créer des guerres en Afrique et dans le reste du monde. Et c'est là où l'ONU ne joue pas son rôle, parce que si aujourd'hui des pays comme la République démocratique du Congo étaient en paix et que l'ONU devait s'occuper de la bonne gouvernance de tous ces pays-là, aujourd'hui, nous ne serions pas là à parler encore de l'impact de l'ONU à travers la République du Congo. Moi, je pense que de ce côté-là, l'ONU a encore à revoir les choses, parce qu'il connaît aussi tous ceux qui sont à la base des troubles en Afrique et dans le reste du monde, et particulièrement en République démocratique du Congo. Ceux qui vendent des armes, ceux qui créent des situations pour qu'on vienne piller les richesses du Congo, l'ONU les déconnaît et même les soutient. Mais alors, en ce moment, quel est le rôle jouerait l'ONU à venir nous aider pendant que cette aide-là ne peut pas donner des effets escomptés à cause de la guerre qui annule tout ça. Et c'est là où nous pensons que l'ONU ne joue pas le rôle pour lequel elle a été créée.
Merci beaucoup, Félicia, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, on va prendre Francis qui est à Kisangani. Francis, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, je pense que je salue d'abord tous les auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent à travers le monde et à travers toute la République démocratique du Congo. Je pense que les agences des Nations Unies, depuis que ces agences sont créées et ont commencé de travailler en République démocratique du Congo, nul n'ignore leur contribution directe ou indirecte à travers les projets du gouvernement. Mais malheureusement, il y a un constat que nous sommes en train de faire, parce qu'en principe, comme mes prédécesseurs ont parlé, ils ont dit ces agences contribuent au développement. Ce développement devrait passer par le renforcement des capacités humaines, des ressources humaines du gouvernement et de la population, parce que ce que nous avons constaté, et c'est vrai, il y a certaines agences qui viennent distribuer, par exemple, des vivres, distribuer des... Mais ma préoccupation est surtout à façon de voir et que ces agences puissent transformer les ressources humaines de la population. Même à leur absence, le pays pourra en sortir. Mais il y a le prédécesseur qui a aussi parlé. Je pense que si les agences sont en train de travailler chacun dans ses objectifs, dans ses missions que l'ONU lui a co-signées, ces agences ne devraient même pas utiliser une autre politique, parce que si ces agences utilisent double face, d'une façon contribuer au développement, mais de l'autre côté contribuer à l'insécurité, je pense même les développements qu'ils sont en train de parler, vraiment pour moi, je pense que est inutile, parce que on ne peut pas avoir un développement sans la paix. Vous êtes sans ignorer avec moi, vous constatez depuis 1997 jusqu'à ce jour, vous connaissez la situation que la RDC est en train de traverser, et à la présence même de ces agences, je pense que c'est un peu ça ma façon de voir des choses, mais je vois que tout est inutile, même si ces agences sont là, même si elles ne sont pas là, je ne vois même pas l'intérêt de ces agences.
Merci beaucoup. Alors Francis, merci d'avoir appelé. On revient à vous, Idesbald Chinamula. Vous avez suivi quand même les compatriotes, mais disons, permettez-nous quand même de recadrer un peu quelque chose. On a l'impression que effectivement, il y a quand même ces soucis de savoir comment agissent les agences. Est-ce par une résolution des Nations Unies ou du Conseil des Nations Unies obligatoirement, ou peut-être il y a aussi des objectifs les objectifs généraux sur lesquels se basent ces agences?
Oh, oui, merci encore Francis, merci encore JR, et merci à tous les auditeurs pour les questions posées. J'ai suivi très bien Ghislain, j'ai suivi Félicien et Francis. J'ai suivi également Francis. Et donc, effectivement, il y a la résolution, bien sûr, du Conseil de sécurité, ça c'est clair, c'est pour les missions, parce que les missions sont déployées, bien sûr, pour un temps, et avec un mandat spécifique qui est donné. C'est le cas pour les pays en ce moment, pour la RDC, c'est le cas de la MONUSCO. Mais il y a également des agences, comme on dit, des agences qui sont régulières et qui ont un mandat d'accompagnement du développement, et donc qui sont censées travailler en permanence de façon régulière dans les pays. Quand je dis en permanence, ça veut dire en temps de paix. Ces agences sont les plus utilisées et les plus utiles encore au pays, notamment toutes les agences que j'ai essayé de citer en ce moment. Et j'ai compris surtout, ces agences aussi ont des mandats spécifiques. Comme je l'ai dit, l'un des mandats spécifiques, c'est vraiment les droits au développement. Parce qu'il faut voir aussi où est-ce qu'en ce moment, le développement, il y a des décalages. Les niveaux de technologie, la science a permis aujourd'hui d'atteindre les niveaux de connaissances qui permettent de résoudre des problèmes énormes en termes technologiques.
Mais il faut effectivement voir qu'il y a des gaps importants, qu'il y a toujours des fractures, comme on dit, entre les populations, entre les niveaux de savoir et les niveaux de vie que les populations mènent. Et la pauvreté, comme on le sait tous, les statistiques l'indiquent, c'est au niveau de l'Afrique qu'elle est concentrée. C'est ici, effectivement, que les agences des Nations Unies ont un rôle très, très important. C'est pour ça qu'il y a ces objectifs de développement durable. Et j'ai compris que Justine voulait se comprendre quelle est la différence avec
les OMD. Les
objectifs du millénaire pour le développement. Écoutez, ce que je peux dire très rapidement, c'est que c'est d'abord, on a pris en compte les résultats, les leçons apprises des objectifs du millénaire pour le développement. Vous savez qu'il y a eu des progrès significatifs qui ont été atteints, mais pas dans tous les objectifs. Pour la RDC, vous savez qu'on a fait des progrès significatifs en ce qui concerne l'éducation.
Tout à fait.
L'éducation, avec les fameux principes, toutes les filles à l'école. Vous savez qu'avec, sous l'élite de l'UNICEF, il y a eu des progrès énormes en termes de la scolarisation des enfants à l'école. Et on a réalisé des progrès significatifs. La santé maternelle, je crois qu'on a fait également des progrès significatifs. Le pays a enregistré des progrès significatifs sur la réduction des taux de mortalité des femmes et notamment la santé de la reproduction. Il y a eu également des progrès significatifs dans des domaines, par exemple, sur le plaidoyer, sur le VIH-SIDA. Je pense qu'on a connu également des progrès significatifs avec la sensibilisation qui a permis d'indiquer quand même, de réduire d'une certaine façon drastiquement, en tout cas, les niveaux de propagation du VIH-SIDA. Ça, c'est des objectifs, ça, c'est des résultats importants qui ont été atteints. On est conscient, effectivement, qu'on n'a pas atteint les résultats liés à la réduction de la pauvreté. Les taux de réduction de la pauvreté a été très faible. On est tous conscients de ça. Et il y a d'autres domaines où, effectivement, les progrès n'ont pas été significatifs. C'est en fait ça qui est récupéré aussi au niveau des ODD. Voilà, par exemple, au niveau des ODD, si je peux vraiment vous résumer les 17 objectifs, c'est des gros objectifs. Sur les 17 objectifs, quand vous regardez dans l'ensemble, c'est des grands objectifs. C'est la réduction de la pauvreté sensiblement et la protection de l'environnement. Parce qu'on veut réduire la pauvreté, on veut absolument aider les pays à s'aider à répandre qu'on dit les bénéfices du savoir, de la technologie aujourd'hui en termes de réduction de la pauvreté, mais aussi on veut que les politiques publiques qui vont être mises en place pour la réduction de cette pauvreté, pour la croissance inclusive, comme on l'a dit tout à l'heure, soient des politiques qui puissent également intégrer une perspective de gestion durable des ressources naturelles pour à la fois permettre aux générations futures d'accéder également à ces ressources et aider les pays à se reconstruire. Mais vous allez voir aussi que les ODD sont fixés autour des indicateurs clés qui sont définis pour l'ensemble, pour tous les pays, on a des indicateurs clés qui existent déjà, qui sont définis. Et chaque pays n'a qu'à définir ses propres objectifs, c'est-à-dire ce que nous appelons les cibles. Ce sont les cibles qui vont être définies au niveau de chaque pays. Et au niveau de chaque pays encore, on va encore descendre au niveau des provinces pour que chaque province également définisse aussi ses propres objectifs internes. Mais nous avons les 17 qui sont intrinsèques, qui sont intimement liés. Et nous avons, c'est enrichi avec d'autres éléments importants comme les éléments catalyseurs qui ont été fournis. Parce que les objectifs du millénaire pour le développement, on disait, voilà, il y avait des éléments qui étaient oubliés. Il y avait beaucoup de choses qui ont été oubliées, des éléments importants, notamment l'accès à l'énergie, qui a un rôle très important, comme vous le savez. Avec l'accès à l'énergie, ça va fédérer sur plusieurs autres objectifs. Il y a un objectif important qui n'a pas été mis en valeur, c'est la question de l'égalité effectivement des sexes, donc la promotion de l'égalité des sexes, qui est un objectif très important, parce qu'on a constaté que tant qu'on ne valorise pas le potentiel qui existe dans les femmes, on ne peut pas atteindre le développement. Donc ça, c'est des éléments qui ont été effectivement intégrés. Mais l'élément le plus important aussi que je peux mentionner, c'est les cadres de planification, les cadres stratégiques. Là, nous sommes en train de partir d'une perspective de court terme pour une perspective de long terme. C'est-à-dire on a des objectifs qui ont été fixés de 2015 à 2030. Ça veut dire qu'on a un programme qu'on peut mettre en place sur 15 ans. Ça veut dire que même le gouvernement est aujourd'hui invité à basculer, à migrer vers ce que nous appelons une approche programme. On a validé, on a présenté un budget hier au niveau de l'Assemblée nationale ici en RDC. Vous le savez très bien. Mais l'idée, c'est d'avoir ces programmes qui a un programme de 5 ans, un programme de 10 ans, un programme de 15 ans. C'est dans un programme de 15 ans qu'on peut faire effectivement de bonnes transformations. Ce n'est pas un programme de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Peut-être à partir de 5
oui,
ans.
Oui, monsieur Tinamou, là, c'est vrai, il y a une préoccupation parce que là, dans notre téléprompteur, je suis en train de lire la réaction d'un auditeur qui est en train de commenter ce sujet sur notre page Facebook en disant qu'effectivement, il y a des efforts qui sont consentis au niveau des agences, mais cela n'a pas pu améliorer l'IDH, même lors des EMD. qu'est-ce qui nous garantit que dans les ODD, l'IDH de la RDC sera améliorée? Quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que les agences en sont conscientes?
Tout à fait. Il y a quand même un progrès qui a été fait. La RDC a gagné quelques points, quelques 10 points récemment en termes d'IDH, indice sur le développement humain. Vous savez qu'il y a un indicateur qui rassemble, qui réunit plusieurs indicateurs. Ce n'est pas seulement une question des revenus, ce n'est plus seulement une question d'accès à l'éducation, ce n'est plus seulement une question de production, de PIB. Mais aujourd'hui, c'est en même temps lié à la question de l'éducation, c'est en même temps lié à la question des droits humains, c'est en même temps lié à la question des libertés, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est un indice, comme on dit, composite, qui réunit plusieurs indicateurs. Pour améliorer ça, il faut effectivement voir où les pays ont encore des faiblesses. Et c'est ça le travail que nous essayons de faire lorsque nous présentons les indices sur le développement humain. Ce n'est pas seulement c'est basé sur les chiffres, n'est pas seulement s'arrêter sur les chiffres. On essaie de dire, voilà, les chiffres sont là, mais voilà comment cet indice est constitué, et voilà les points sur lesquels les pays encore des faiblesses doivent faire des grands progrès pour améliorer cet indicateur. Surtout, toutes les questions liées, effectivement, aux libertés, toutes les questions liées, notamment, on a fait des progrès sur l'éducation, mais également toutes les questions liées, effectivement, à l'inclusion, cette répartition, comme on dit, ou cette rétribution des dividendes de la croissance. Donc, il y a des aspects comme ça sur lesquels, effectivement, les pays ont encore des efforts.
Voilà, nous vous gardons. Voilà, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'écouter la dernière série des auditeurs. Et puis, on reviendra à vous parce qu'il y a une question quand même qui, une préoccupation et des commentaires qui sont soulevés par certains auditeurs en ce qui concerne l'environnement. Aujourd'hui, on sait que la RDC fait face à des problèmes sérieux de son environnement en termes de d'érosion à travers les pays. Et comment les Nations Unies s'arrangent pour répondre à ces défis, à ces grands défis. Alors, mais en attendant, nous vous gardons en ligne, les temps d'écouter Jean-Paul qui est à Kolwezi et Gaston qui est à Kinshasa. Jean-Paul, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à la radio Capi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution? Quelle est votre contribution, Jean-Paul?
Ma préoccupation, j'aimerais dire que travaux abattus par la mission dans certaines agences sont visibles. À l'occurrence de la PNUD, les PAM et autres. Mais là où le bas blesse, c'est quand on parle de la sécurité au sein de notre pays. Vous et moi, Gérard, vous êtes sans ignorer que la mission de la MONUSCO ici, c'est le maintien de la paix. Est-ce que la RDC est en paix avec l'Est de la République? C'est une question que je me pose. Parce que nous, avec la présence onusienne ici, nous croyons que nous devons être bel et bien protégés. Alors, au moment où il y a des victimes qui meurent à Beni, mais il y a la présence de la MONUSCO, vous voyez que la mission a bel et bien fait son travail.
Alors, je crois que Jean-Paul, vous avez suivi notre invité qui a fait la différence entre des résolutions qui donnent mandat aux missions de paix pour réaliser quoi que ce soit, mais du côté des agences aussi, dans l'ensemble, les partenaires privilégiés des Nations Unies, il y a un travail qui est fait au niveau de la coordination de PNUD et chacune des agences par rapport à son mandat, tout ensemble joue un rôle d'assistance technique. N'est-ce pas? Et vous l'avez remarqué comme les autres aussi, c'est vrai, il y a un travail qui est fait, mais vous insistez beaucoup plus sur la sauvegarde de la sécurité. Et notre invité l'avait dit aussi. Je crois qu'il va revenir pour vous éclairer davantage. Alors Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Merci JR, je vous salue aussi, chez tout le monde.
Quel est votre avis?
Bon, JR, il faut faire la part des choses, hein. Il faut vraiment pas faire la part des choses. L'ONU n'est pas ces institutions spécialisées. Les institutions spécialisées, c'est tout ce que, comme l'Alpinide et tous les restes là. Mais quand on parle de l'ONU en RDC, on voit plus la mission de maintien de la paix qu'elle a envoyé ici, qui a presque, à mon avis...
Oui, Gaston, mais raison pour laquelle notre invité a même fait cette ligne de démarcation entre les Nations Unies dans son ensemble avec les agences et la mission pour la paix. Il a même donné des objectifs généraux et des objectifs spécifiques à chacune des... Donc, ce n'est pas la MONUSCO qui représente dans les Nations Unies ici.
Jamais de la vie. Il faut préciser aussi que la mission, ça pour votre gouvernement aussi, La mission, les missions des Nations Unies dans le monde ne tirent pas leur fondement dans les statuts, hein, dans la charte des Nations Unies. C'est juste une mesure palliative parce que normalement l'ONU devrait avoir un état-major avec son armée propre pour intervenir là où la paix ou la sécurité internationale est. Comme c'était, ce n'est pas institué jusqu'à ce jour, c'est pour cela qu'on a inventé cette alternative consistant à envoyer des missions avec des contingents des États fournisseurs. Alors, ces missions-là ont des missions très spécifiques qui vont même jusqu'à aux missions de développement, des trucs comme ça. Le cas de la MONUSCO qui accompagne notre gouvernement dans plusieurs plans. C'est pas seulement les plans de la paix et la sécurité, ça vraiment il faut retenir parce que quand on voit l'apport de la MONUSCO, c'est comme l'a dit l'autre maman là, c'est vraiment une administration parallèle. Je pourrais même dire que nous, à travers la MONUSCO, nous sommes sous tutelle. Ça, il faut vraiment pas l'ignorer. Et si aujourd'hui nous disons que on a quand même un État, parce que jadis, en 97, c'était pas le cas, mais c'est aussi grâce à la MONUSCO. Il y a des efforts qu'on ne sait pas comptabiliser ici, peut-être. Moi, j'avais jugé bon que vous puissiez aussi inviter une personne de la MONUSCO qui devrait normalement nous
dire. Malheureusement, Gaston, aujourd'hui, c'est la journée des Nations Unies. Et des fois, quand il y a la journée des casques bleus, nous invitons quand même les représentants au niveau des ministères de casques bleus pour en parler. Merci beaucoup, Gaston. Alors, on va terminer avec Dieu merci qui est à Kisangani. Dieu merci, bonjour.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à notre invité.
Quelle est votre contribution en une phrase, parce que vous avez droit à une minute seulement. Dieu merci.
Oui, moi je pense que nous voyons la présence de toutes ces agences parce que dans les véhicules on a écrit Uber, UNICEF et consorts. Il serait souhaitable que le PNUD puisse travailler plutôt avec les organisations des sociétés civiles parce que la majorité des objectifs, ce sont des variables qualitatives qu'on ne peut quantifier jamais en termes de pourcentage. Mmh. On cherche plutôt la satisfaction et on devrait travailler avec l'échantillonnage des organisations de la société civile qui sont proches de la population pour dire s'il y a un impact réel de toutes les agences.
Merci beaucoup. Dieu merci. Nous prenons ça à la dernière préoccupation et nous transmettons ça à notre invité, Idesbal Chilamouina, variable qualitative selon Dieu merci. Il vous demande de travailler directement avec la société civile comme cadre d'accompagnement.
Merci beaucoup encore JR, merci encore à tous les intervenants de tout à l'heure. J'ai bien apprécié les interventions et merci aussi à JR pour avoir cadré les échanges, hein, parce que tout le monde avait tendance à focaliser un tout petit peu sur la MONUSCO qui a un mandat spécial limité dans le temps, alors que les agences, comme on dit, les agences spécialisées ont quand même aussi une mission plus importante et stable, dans des conditions plus stables. Je reviens donc sur la dernière intervention de Dieu merci pour remonter sur ce que Gaston soulignait et les autres. Donc, je voudrais là-dessus dire que, même si j'ai parlé que les gouvernements, nous sommes les partenaires, les Nations Unies de façon globale, sont considérés, je dis bien, sont considérés comme les partenaires privilégiés au niveau du gouvernement. Ça, c'est, je cite bien l'expression bien du gouvernement. C'est effectivement parce que nous travaillons avec, en appui, nous apportons cette assistance technique pour voir les choses de façon stratégique, globale, pour descendre au niveau de la mise en œuvre. Je vais donner un exemple concret.
Rapidement, parce que vous n'avez qu'une minute trente. Vous n'avez qu'une minute trente.
Dans les domaines de l'environnement aujourd'hui, tous les potentiels que la RDC avait en ce qui concerne l'environnement, changement climatique, n'étaient pas valorisés à sa titre et valeur. Donc aujourd'hui, nous avons fait des efforts en sensibilisant, en menant des plaidoyers, en armant les gouvernements, en renforçant les capacités au niveau des experts du gouvernement. Aujourd'hui, la RDC est pionnière de la stratégie nationale RED+, et est parvenue à mettre en place un plan d'investissement de 1 milliard de dollars pour préserver sa forêt, qui est mobilisée à 200 millions. 20% sont mobilisés, donc nous sommes à 200 millions de dollars mobilisés mis actuellement en RDC pour la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes pour laquelle nous mobilisons la société civile pour être actif, pour être active en tant qu'acteur des changements. Parce que pour préserver la forêt, il faut promouvoir les changements. Il faut promouvoir les changements dans la façon de faire l'agriculture, il faut promouvoir les changements dans la façon d'utiliser l'énergie, il faut promouvoir les changements dans la façon de concevoir les politiques publiques pour la République démocratique du Congo. Il y a un programme d'aménagement du territoire, il y a une réforme foncière qui vont être engagées, il y a un programme spécifique de promotion des énergies, comme on dit, mais alternatives au bois énergie. Donc il y a plusieurs programmes.
Voilà, malheureusement, on ne saura pas aller plus loin. On ne saura pas aller plus loin avec vous. Ce n'est avec une partie remise. Idesbald Chinabuela, vous êtes coordonnateur en charge de pilier croissance inclusive et développement durable au PNUD. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les auditeurs, les uns et les autres, ici au pays, à travers et à l'étranger. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Vous étiez nombreux également à commenter et à avoir lu d'ailleurs ces sujets sur notre page Facebook. Vous devez continuer, en tout cas, on continue les débats sur www.radiocapi.net et en rediffusion cette émission le soir. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.